Mais quelle joie ce matin d'entendre Monsieur Griveaux nous dire comme il est dommage de penser en termes de gagnants et de perdants depuis 30 ans. Qui a dit il faut aimer le succès, il faut retrouver en France la culture du succès parce qu'on n'a pas le droit d'échouer ici, ni de réussir trop bien. Ce sont des phrases dont vous retrouverez aisément l'auteur, disons qu'elles ont été prononcées il n'y a pas si longtemps par un aspirant président et dont on ressent aujourd'hui l'impact, c'est assez fascinant, sur la politique qui est menée réellement. Il n'y a rien de mal pourtant à la gagne, à la course, à la performance, à cette culture du succès. Mais je me demande dans quelle mesure elle est efficace pour réussir, justement. C'est une question qu'on est en droit de se poser pour s'instruire, se déculpabiliser et peut-être aller plus loin. Il faut lire et relire ce livre de Charles Pépin, « Les vertus de l'échec », dans lequel il décrit avec force exemple la sagesse de ceux qui se sont plantés. Et il rappelle, entre les pensées philosophes et les parcours très concrets d'un Raphaël Nadal, d'une Barbara, d'un général de Gaulle ou d'une J.K. Rowling, cet exemple qu'on a tous vécu et maintes fois observé. Combien de tentatives ratées avant de savoir marcher? Combien de gamelles, de trébuchements, de gadins pour le moins humiliants? Et si, demande Charles Pépin, c'était justement le propre de l'homme que d'oser et de savoir échouer pour mieux se relever? Et si, plutôt que de penser une culture du succès, on nous vantait pour commencer la beauté d'échouer?
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il réussi avec, après le joli succès, 500 000 exemplaires de son premier roman En attendant Bojangles, paru il y a 2 ans, il est permis de le penser. Il vient de publier Pactum Salis, l'histoire d'une amitié entre deux hommes que tout oppose sur fond de marais salant et de rivalité virile. Bonjour Olivier Bourdeau.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, réussir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Eh bien écoutez, je pense que c'est déjà être heureux de ce que l'on fait. Et la réussite suprême, c'est quand les autres sont heureux de ce que vous faites. Mais la réussite est égoïste, je pense, et être heureux de ce que l'on fait. Voilà.
Est-ce que ça implique pour vous aussi de faire des choix, de résister au modèle que la société nous présente comme enviable?
Oui, bien sûr. Enfin, très honnêtement, il y a beaucoup de choses dans cette société, dans la société de demain, dans la société d'hier qui m'agace et j'essaye de me mettre en retrait.
Concrètement?
Cette hyper-connexion, on dit tout le temps hyper tout le temps, mais là en l'occurrence c'est le cas, ça m'agace. Et puis comme j'y suis sensible, il m'arrive de regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je me sens faible vis-à-vis de ça, donc j'aimerais bien m'en séparer. Voilà, définitivement.
On aurait parié, vous auriez parié sur votre réussite, à vous, Olivier Bourdeau?
Non, mais enfin, non, vraiment pas. Mais si je suis ici, c'est que je suis déjà le fruit de tous mes échecs, plus que de la réussite. Churchill, qui est à l'honneur en ce moment, disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et il s'y connaissait en échecs. Moi, très honnêtement, je les chéris, mes échecs. C'est en pensant à mes échecs que je savoure ma réussite.
Là, je pense tout de suite évidemment à l'un de vos personnages, devenu agent immobilier, qui cherche à accumuler, exhiber tous les signes extérieurs de réussite et de richesse. Il roule en Porsche, il porte une montre hors de prix, il se paye une vie de palace à la Baule. La réussite, il faut que ça se voit.
Oui, dans beaucoup de cas, oui. Alors que finalement, la réussite savourée, c'est celle qui est à l'écart, c'est celle qu'on constate dans la solitude. Moi, je n'ai pas du tout pensé à ma réussite pendant tout le tourbillon de Bojangles. J'ai commencé à y penser quand je me suis retiré chez moi et que j'ai regardé tout ce qui s'était passé. Mais sur le moment, quand j'étais au milieu des gens, je n'y pensais pas. Je n'en profitais même pas en plus. On en profite quand on est seul. Et alors, l'échec et la solitude, voilà mon créneau.
Et alors vous montrez dans le livre ces signes extérieurs de richesse, de réussite, l'exhibitionnisme un petit peu ridicule parfois. Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui pour vous? Parce que c'est ça qui est intéressant et dont témoigne le roman.
De quoi écoutez...
Une forme de vulgarité en fait.
Mais l'apparence est la première chose qu'on montre aux gens. Par conséquent, lorsqu'on a réussi, il faut qu'il y ait des signes de réussite dans son apparence. Voilà, c'est ainsi. J'aimerais bien y échapper, je n'y échappe pas tout à fait. Non, mais j'aimerais bien être fort et finalement je suis assez faible.
Vous dites volontiers que vous êtes un mélange de vos deux personnages principaux, quelque part entre l'agent immobilier débauché, nouveau riche de droite, et le bobo de gauche qui opère un retour à la nature en devenant paludier. À quoi vous avez échappé, vous, en devenant écrivain?
J'ai échappé à l'immobilier déjà. C'est le premier des succès.
Qu'on salue, hein, tous les agents immobiliers de France et de Navarre.
Oui. Non, en fait, c'est un fiasco total, cette histoire dans l'immobilier. Mais finalement, le fait d'en être sorti, c'est devenu un succès. Voilà, faudrait l'expliquer à mes patrons, mais... Je suis, ces deux personnages sont les versions abouties de ce que j'ai voulu être à une période. J'ai voulu être dans l'immobilier et gagner beaucoup d'argent, ça a été un fiasco. Et j'ai travaillé dans les marais salants parce que j'ai toujours la tentation du retrait du monde qui me fascine. Et là aussi, il faut une certaine force de caractère que je n'ai pas toujours. Voilà, j'espère l'avoir un jour.
Vous les faites se rencontrer, ces deux personnages, ces deux variations sur vous, Olivier Bourdeau. L'un va devenir donc employé de l'autre sur son marais salant. Est-ce qu'ils partagent, outre le fait d'avoir été mal à l'aise dans leurs milieux sociaux d'origine, c'est un rapport particulier au masculin et à la virilité? En d'autres termes, tous les deux jouent un petit peu au bonhomme. Ils roulent des mécaniques. Être un homme, quelle comédie est-ce que c'est pour vous?
Écoutez, là déjà, je pense que les premières victimes de ce roman, ce sont les hommes. Ce sont les plus ridicules, toutes ces histoires de testostérone. Il suffit de mettre deux hommes dans une pièce et la rivalité commence.
Bon, non, regardez, entre nous deux, ça se passe très bien.
Non, mais parce que vous m'invitez, que vous êtes bien élevé. Généralement, il y a toujours, que ce soit en termes de force, en termes de séduction, en termes de richesse, il y a toujours un moment où les gens se confrontent, quoi. C'est moins féminin que masculin.
Ça vous fait rire, en tout cas?
Évidemment, ouais, c'est hilarant.
Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie?
Oh, écoutez, presque tout. Voilà. Surtout mon ridicule. J'ai un sens précis du ridicule. Voilà. Et je vais certainement repenser à cette émission demain en me disant que mes réponses étaient ridicules. Et je m'esclafferai à ce moment-là.
Nous, celle qui nous fait rire, qui est hilarante et qui joue la comédie dans cette émission, vous la connaissez forcément, c'est la culture et son actualité râleuse, pigneuse et menteuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 18 janvier? And the winner is Guillaume Musso. D'après le palmarès GFK Le Figaro pour la 7e année consécutive, l'écrivain antibois reste le romancier le plus lu de France, avec près d'1,5 million d'exemplaires écoulés en 2017. Il devance Raphaël Giordano, l'auteur du best-seller « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », qui fait une entrée fracassante dans le classement. Suivent Michel Bussi et Marc Lévy. Virginie Despentes frôle le top 10. Allez là.
This is the Bayeux Tapestry.
Bon bail de Bayeux. Aujourd'hui, à l'occasion du 35e sommet franco-britannique, Emmanuel Macron va annoncer que la France prêtera aux Anglais la tapisserie de Bayeux. Une première depuis 950 ans. Trésor national de 70 mètres de long et de 50 cm de haut, la fresque sera exposée au British Museum dès 2022. Geste hautement symbolique et diplomatique pour la France, alors que le président Macron gère notamment avec Theresa May sa promesse de non-reconstitution de la jungle de Calais. Puis le Brexit aussi.
Hi, my name's Idris Elba and I am the director of Yardi, which has been entered into the world cinema at Sundance 2018.
Sundance avec les stars, rendez-vous le plus pointu et le plus couru du ciné indépendant américain. Le festival de Sundance inaugure aujourd'hui sa 34e édition. Au programme des réjouissances, Idris Elba présentera notamment son premier film Yardi. Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal seront là pour porter Wildlife, le film de Paul Dano, et Chloé Sevigny et Kristen Stewart sont attendus pour Lazy de Craig William McNeil. Ça, c'est stylé. Chaud plein le dos, alors Jean-Luc Claque-Laporte, directeur artistique de la scène musicale à Boulogne, nouveau vaisseau francilien de la musique. Jean-Luc Chopin a annoncé hier qu'il quittait ses fonctions. On chuchote que l'ancien directeur du théâtre du Châtelet n'aurait pas trouvé les moyens pour produire de nouveaux spectacles. En attendant, Show Must Go On, Danse avec les stars, la tournée s'y installe fin janvier. Le romancier Olivier Bourdeau, invité de Boomerang ce matin pour Pactum Salis, scellé dans le sel en latin, votre deuxième roman, après le grand succès, on le disait, en attendant Bojangles. Alors ce qui est intéressant, c'est que du jour au lendemain, on vous a vu absolument partout. Comment est-ce qu'on vit la soudaineté d'une telle surexposition, Olivier Bourdeau?
Eh bien écoutez, on se contente de la vivre.
Ça veut dire que vous l'avez mal vécu, ça?
Non. Je l'ai pas mal vécu, mais on se contente de la vivre puisqu'on n'a pas le temps d'y penser. Voilà, j'espère être un quelqu'un d'obéissant, donc je me rends aux endroits où on m'invite. Et c'est tellement fulgurant, et ensuite l'enchaînement des rendez-vous est tellement rapide qu'on n'a vraiment pas le temps d'y penser, quoi.
Alors là, c'est vraiment à l'écrivain que je m'adresse, plus à la personne. Est-ce que vous sentiez, est-ce que ça a influé sur votre écriture? Est-ce que vous sentiez qu'on vous attendait au tournant avec ce deuxième roman?
Ben, j'avais un luxe incroyable, c'est que j'avais déjà 150 pages de Pactum Salis avant que Finitude m'appelle pour me dire que j'aurais la chance d'être édité. Et ça, très honnêtement, quand j'ai écrit, à ce moment-là, les 150 premières pages, je pensais que je m'adressais à 30 personnes, c'est-à-dire mes amis que je harcelais pour qu'ils me donnent leur avis.
Mais après le succès de Bojangles, vous n'avez pas peur d'être déçu par la réception de celui-ci?
Ah bah écoutez, Bojangles, il y a eu une sorte d'unanimité, donc j'ai été épargné par des critiques trop acides, et là je découvre ce que c'est. Il faut que je l'apprenne, il faut aussi faire, enfin, c'était parfaitement logique.
On se pose la question, Olivier Bourdeau, d'écrire un Bojangles numéro 2?
Absolument pas.
Jamais?
Jamais.
On vous l'a posé, la question, on vous l'a proposé?
Non, mais je crois que des éditeurs étrangers regrettaient, et ont regretté que je n'écrive pas Bojangles numéro 2. Je n'avais pas envie d'écrire un roman articulé par les mêmes ressorts. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et c'est vrai que Pactum Salis est assez différent d'En attendant Bojangles. En quoi est-ce qu'il est fondamentalement, pour vous, différent?
L'histoire, le point de vue, les personnages, le style, tout est différent.
Et puis peut-être, je me disais, en ceci qu'il met en place une certaine forme de suspense, tout simplement. Le livre s'ouvre sur une scène où l'on découvre un corps dans les marais salants. C'est quoi une bonne scène d'ouverture pour vous?
Je n'en sais rien.
Vous l'écrivez quand même.
C'est celle qui donne envie de tourner la page d'après.
Une bonne réponse, ça.
Comment?
C'est une bonne réponse.
Eh ben écoutez, alors à ce moment-là, je vais m'arrêter. Non, mais si vous considérez que c'est une bonne réponse, je suis satisfait.
La première page de Bojangles.
Oui.
Vous en souvenez?
Ouais, bien sûr, oui. J'ai dû la lire pas mal de fois dans les librairies, donc je m'en souviens à merveille.
Vous les avez réécrites? Vous accordez une importance particulière à cette première page, à cette ouverture du roman?
Ben écoutez, non, parce que quand je termine l'écriture d'une page, que je l'ai lue, relue, relue, et que je passe au chapitre d'après, je considère que cette page est terminée. Voilà.
C'est une scène qui plante un décor aussi, la scène d'ouverture. Ce que vous faites avec beaucoup de minutie, quels soins est-ce que vous apportez à la description de vos décors, Olivier Bourdeau?
Bah écoutez, je suis très ému par les paysages de manière habituelle. J'ai une chance folle, c'est que je garde ces images en tête très longtemps. Je ne suis pas rendu dans les marais salants pendant l'écriture du roman, puisque je n'avais pas eu le temps. Et j'étais au Croisic, lieu de la scène du crime. Et les gens m'ont félicité pour les descriptions. Voilà. Et bon, si le reste du roman leur semble mauvais, au moins, qu'on me complimente sur les descriptions, c'est un succès.
Que vous aviez refantasmé, en fait, quelque part, puisque vous ne les voyez pas alors que vous écriviez?
Oui, j'avais toute une foule d'images, de mots, d'odeurs. Et surtout, quand j'étais cueilleur de fleurs de sel, je pensais déjà à écrire éventuellement là-dessus. Donc, j'avais déjà des phrases.
Quelles images, quelles odeurs? De quoi est-ce que vous parlez?
Bah écoutez, je pense surtout aux deux clochers qui se répondent. Je ne sais pas si c'est une astuce d'auteur, ou si c'est un fantasme, ou si c'est la vérité. Mais en tout cas, quand je me suis mis à écrire, j'y ai pensé. Et je me suis demandé si c'était la vérité. Faudrait que j'aille enquêter sur place.
Et quelle musique vous vient à l'esprit quand vous pensez à ces marais salants?
Bah écoutez, Radiohead, que j'écoutais beaucoup en cueillant la fleur de sel, qui accompagnait, je pense, à merveille mes gestes. En tout cas, ça rendait le coucher de soleil absolument somptueux et ma vie vraiment belle. Simple et belle.
Il n'y a pas que Radiohead dans le livre, il est question de musique dans ce livre.
Oui, il y a Sidney Bechet, Petite Fleur, il y a Summertime de Fitzgerald qui est absolument somptueuse.
Vous brûlez.
Ouais.
Wow.
C'est fantastique.
Ah, puis il y a lui aussi.
Dig man, there goes Mac the Knife.
Louis Armstrong,
oui.
Les trompettes.
Oui, Louis Armstrong et Fitzgerald.
Qu'est-ce que vous entendez là?
Oui, c'est Louis Armstrong.
Dans sa trompette.
L'enthousiasme, la joie de vivre, la légèreté, la simplicité aussi. Important, oui. La simplicité dans un monde compliqué.
C'est central. Armstrong et sa trompette, sa voix grave aussi, en 1957. Vous êtes sur France Inter avec Olivier Bourdeau. Vous écoutez Boomerang.
La vie est belle.
Et Mac the Knife.
Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat Deer, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat Deer? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town.
Take it, Satch.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre le chérubin, la star du film Les Choristes 30 ans plus tard, et Pancho Villa, avec son innombrable moustache, savez, ses yeux bleus d'amoureux, sa mèche blond foncé de golfeur, plus en forme que jamais, ce matin, pull marin, au col roulé, le romancier Olivier Bourdeau, invité de Boomerang, pour Pactum Salis, deuxième roman après En attendant Bojangles, Pactum Salis qui vient de l'expression Amiticia, Pactum Salis, qui veut dire l'amitié est scellée dans le sel. L'histoire, en l'occurrence, d'une amitié hasardeuse entre deux hommes qu'apparemment tout oppose, parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les réunit, c'est le travail.
C'est vrai, c'est le travail et la solitude.
Qu'est-ce que c'est le travail pour vous, Olivier ?
Ah, écoutez, jusqu'à il y a quelques années, c'était l'enfer.
Au moins.
C'est aussi simple que ça.
C'est radical, ouais.
Ah ouais, vraiment. Vraiment, mais en fait, mon père me harcelait matin, midi et soir pour que je travaille. Comme j'ai un sens de la contradiction assez appuyé, je faisais tout pour ne pas travailler.
Et vous avez élevé la paresse.
Mais non, mais c'est un mot qui m'accablait, en fait. Ça me faisait tomber mes épaules, quoi. C'était terrible, ce mot. Et puis finalement, là, je fais ce qui me plaît. Et c'est un mot qui résonne sympathiquement.
Parce que l'écriture, c'est effectivement un travail.
Oui, c'est un travail mêlé à une passion et à une obsession. Donc je pense que tout ça réuni rend les choses assez agréables.
Un travail sur les mots, en l'occurrence, avec un vrai plaisir, on le sent, lorsque vous utilisez un mot très rare comme falsoculisme. J'ai pas trouvé ce que c'était, Olivier Bourdeau.
Ben, c'est le fait d'être un faux cul. Ouais. Mais en fait, je l'avais déjà entendu. Je ne suis pas sûr que ce soit un français irréprochable. Je l'ai entendu, j'ai trouvé ça sympathique. Le fait d'être faux cul, j'ai vérifié, il existe, mais peut-être pas dans les dictionnaires officiels, quoi. Le falsoculisme. Je trouve que c'est bien parce que ça concerne beaucoup de gens qu'on rencontre. Le falsoculisme.
Et vous trouvez ça beau aussi ?
Ah ouais, c'est fantastique, ouais. Ouais, c'est... Je trouve que c'est plus beau que de parler de faux cul. Là, la notion de cul est dissimulée dans les autres lettres. Je trouve ça sympa.
Quel rapport vous entretenez au langage ? Un rapport jouissif, comme ça ? Dictionnaire à la main ?
Ouais, je disais que mon père m'avait accablé avec le mot travail, mais il m'a donné un conseil fantastique. À 14 ans, il m'a dit de tenir un carnet de vocabulaire. Et je l'ai tenu. Alors, c'était un carnet à spirale que je regarde parfois. Désormais, c'est un fichier Word et c'est parfaitement triste. Mais du coup, je me prenais toujours avec des petits papiers, avec des mots dessus. Et
donc des mots que vous ne connaissiez pas?
Évidemment. Non, pas, non, non, je dis évidemment, mais pas du tout. C'est qu'il y a des mots dont on connaît la définition, mais qu'on est incapable de définir. Et ça...
Donnez-moi un exemple.
Mais écoutez, il y en a plein, et là, je mets trop longtemps à le trouver, mais il y a des mots qu'on emploie, mais donc on ne connaît pas la définition précise. Et par conséquent, j'ai plein de mots assez connus qui pourraient me faire passer pour un crétin si on se penchait dans mon carnet de vocabulaire. Mais je suis content d'avoir toutes les nuances de ces définitions. Je trouve, ça me semble important. Et ça, c'est un excellent conseil qu'il m'a donné. C'est un travail que j'aimais faire, ça. Parce que je me retrouvais... c'était irrégulier, mais tous les 15 jours, toutes les semaines, je passais une heure à recopier d'une écriture appliquée tous ces mots de vocabulaire, et c'était une petite richesse. C'est mieux qu'une tirelire pleine.
Qu'est-ce que le travail d'écrivain pourrait avoir de commun avec celui de paludier, celui qui récolte le sel dans les marais?
Deux choses, la patience et la passion. Ça vous va?
Bah, tout me va, Olivier Bourdeau. La méticulosité.
Bien élevé, alors.
L'idée aussi d'être soumis à un certain rythme, peut-être.
Oui. Oui, c'est vrai. Écoutez, je marque le syndicat de la nature a négocié les heures de travail pour le paludier, puisqu'il s'agit des caprices de la météo. Et ils sont soumis à... Ils se lèvent très tôt et ils se couchent à l'heure où le soleil disparaît. Et moi, je me lève très tôt pour écrire, oui. Je ne suis pas du tout régulier dans ma vie. Ma vie est un bordel sans nom. Le seule fois où je suis régulier, c'est pour l'écriture. J'ai besoin de cette rigueur, en fait.
Et comment est-ce que vous vous sentez au terme d'une journée de travail, Olivier Bourdeau?
Eh bien, écoutez, c'est simple. Si j'atteins mes objectifs, je suis satisfait et je ronronne en m'endormant.
Carrément.
Ouais. Et si je n'ai pas atteint mon objectif, qui est de 3 pages généralement, si je suis à 2,7 pages, eh bien j'ai mauvaise conscience toute la journée et j'essaierai de rattraper mon retard le lendemain.
J'aimerais lire un extrait de votre Pactum Salis, si vous voulez bien.
Avec joie.
En fin d'après-midi, le lendemain, une saine fatigue engourdissait les articulations de Jean au terme d'une journée exceptionnelle pour sa récolte. Courant avec méthode d'une tâche à l'autre, il s'était privé de cigarettes, de repas, de repos, et pourtant cette journée l'avait apaisé. Il avait commencé aux premières lueurs avec un fardeau de mauvaises pensées, et tandis que le soleil allait tirer d'ici peu sa révérence, leur poids s'était dissipé. C'était la première fois qu'il constatait qu'une absence totale de réflexion pouvait régler des cas de conscience. Ses problèmes s'étaient dilués dans une certaine frénésie. Jean n'avait tout simplement pas réfléchi de la journée. Cette thérapie par le travail lui valut un léger vertige. Pourquoi se tracasser à réfléchir quand une absence de réflexion est la solution? On réfléchit quand on écrit?
Oui, on réfléchit beaucoup, mais ça rejoint quelque chose que j'ai constaté avec mon rythme incroyable de rendez-vous, de succession de rencontres. C'est que vous vous levez avec un tracas qui vous semble très très important. Et finalement, toute la journée, vous courez partout. Et avant de vous coucher, vous vous rendez compte que ce qui vous a tracassé le matin n'était pas si important que ça. Parce que vous n'y avez pas pensé. Donc parfois, une absence de réflexion annule ou diminue le tracas. Voilà.
Ce qui est intéressant.
Ce n'est pas
quand
un
même...
conseil que je donne aux gens qui nous gouvernent, forcément.
Aussi bien, ça vaut aussi bien pour le travail d'écrivain que celui du paludier. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont liés à des pratiques ancestrales qui résistent à une certaine idée du progrès, quand même, qui résistent à la rapidité, à la rentabilité, à la productivité. À quoi est-ce que vous avez dit non, vous, précisément, en devenant écrivain?
J'ai dit non à la fatalité. C'est nul comme réponse.
Non, c'était la fatalité? C'était quoi le destin?
C'est-à-dire que j'étais quand même... rien dans ma carrière scolaire ni dans ma vie ne me permettait de me dire qu'un jour je serai en face de vous. Voilà. Ça m'a permis de dire ce que j'avais envie de dire, de m'amuser en travaillant. Et comme je vous l'ai dit, le travail était assimilé à une contrainte géante et désormais ça n'est plus le cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Vous avez dit non à l'ennui aussi, Olivier?
Eh bien,
Bourdeau,
ça dépend parce que j'ai une tendresse pour l'ennui. Je trouve que c'est primordial dans la vie des gens. Si je ne m'étais pas ennuyé autant lorsque j'étais enfant, je pense que je n'aurais jamais écrit de roman. Voilà, c'est bien laisser son esprit vagabonder, s'accrocher, ses yeux s'accrocher à des détails. Je pense que ça structure la cervelle, en tout cas ma petite cervelle, moi.
Je crois que c'est un texte sur l'ennui que vous nous avez écrit ce matin et que vous nous livrez de façon sonore en exclusivité.
Ben écoutez, oui, je veux faire appel à votre clémence, parce que j'essaye d'écrire, je ne suis pas un lecteur, mais voilà, vous voulez que j'y aille?
Ah ben, plus que jamais, Olivier Bourdeau.
Allons-y. Le téléphone intelligent a de nombreuses qualités. Ce n'est pas à moi d'en faire l'article, ses promoteurs s'en chargent à merveille à la télévision, dans les magazines et sur les murs des bâtiments parisiens en rénovation. En tant qu'abominable égoïste, je me moque royalement de ce que font les autres. Je me contente de me satisfaire tous les jours des bienfaits de la disparition du téléphone intelligent dans ma vie, il y a maintenant 7 ans. J'ai une chance inouïe. Je vis désormais de mon écriture et c'est un luxe. J'ai la naïveté de penser qu'un peu d'imagination n'est pas totalement absurde lorsqu'on écrit des romans. Or, à mon sens, et ce n'est que mon avis, l'imagination est le fruit de 2 choses fondamentales. L'ennui, à qui l'on donne trop souvent un drôle de mauvais rôle, et l'observation, qui n'est pas seulement un terme médical. Il s'avère que le téléphone intelligent est le plus féroce ennemi de ces 2 activités de fainéant que sont l'ennui et l'observation. Ce charmant objet, si pratique, si nécessaire, si vital, fait peu à peu disparaître 2 activités primordiales du cerveau humain. Pourquoi s'ennuyer lorsqu'on peut regarder des vidéos de chatons dans une salle d'attente? Et pourquoi regarder ses voisins dans la même salle d'attente lorsqu'on peut regarder des notifications Facebook de la plus haute importance ou encore des vidéos d'abrutis qui se renversent un seau d'eau sur le visage pour sauver un bébé panda ou faire baisser la température terrestre? En somme, grâce à ce téléphone intelligent, vous pouvez regarder... Ouh là là, excusez-moi, j'ai perdu. En somme, grâce à ce téléphone intelligent, vous pouvez regarder en permanence le résultat de l'imagination brillante des autres au détriment de la vôtre. J'ai réalisé il y a 7 ans que j'étais beaucoup trop sensible aux vidéos de chatons et aux notifications Facebook pour pouvoir y résister. J'ai donc décidé de me séparer de ce téléphone si intelligent qu'il me rendait parfaitement débile. Depuis, lorsque je sors d'une salle d'attente, je sais combien de personnes s'y trouvaient. J'ai tenté de deviner ce qu'il faisait comme métier, quelle maladie il pouvait bien avoir, et j'ai construit dans ma petite cervelle pleine d'ennui le roman de leur vie. Le monde n'est plus dans le fond de ma poche, mais sous mes yeux, et c'est bien suffisant pour me rendre heureux.
Olivier Bourdeau et son ode à l'ennui dans Boomerang.
Et à l'observation.
Exclusivement. Merci infiniment, Olivier, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci de nous avoir réservé aussi la presque primeur de votre parole. Ça nous a touché. Je rappelle que Pactum Salis est publié aux éditions Finitude et que c'est aussi bien ficelé que parfaitement assaisonné. Je précise aussi que la première de l'adaptation de En attendant Bojangles à la Pépinière Théâtre a lieu ce soir. En attendant le film, on en est où du film?
Eh bien écoutez, j'ai lu le script il y a 1 mois et je suis épaté. Je peux le dire avec d'autant plus de liberté puisque ils ont inventé des dialogues, donc ce ne sont pas les miens et ce sont de très bons dialogues. Ils ont inventé des scènes, ce ne sont pas les miennes et elles sont excellentes. Voilà, donc je peux qualifier leur travail de remarquable.
On a déjà des idées de qui va incarner vos personnages?
Des noms circulent qui sont extrêmement flatteurs, mais rien de définitif.
Et vous, votre rêve à vous?
J'écris mes rêves en partie dans mes romans. Je ne veux pas prendre le risque de vexer qui que ce soit en donnant mes favoris.
Tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Merci beaucoup.
Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie. Le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus. On a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement parfois dans ma tête. Tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. Mago économie, le don, le dû, le débit. Trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite. Monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée.
Albin de la Simone dans la tête sur France Inter. Et c'est l'heure de Sonia, t'as vu l'air les médias.
Augustin, il y a 1 700 000 personnes qui écoutent le 9-10 de France Inter. Ah
bah c'est super, dis donc.
Oui, je trouve ça complètement vertigineux.
Bah c'est une super bonne nouvelle.
C'est génial.
C'est sans doute grâce à vous, Sonia.
Mais non.
Formidable.
Vous imaginez si on devait leur parler en vrai?
Non.
Non. Salut Augustin.
À demain.
À demain. Ah ouais.